à voix nue. Cette semaine, Anaëlle Pijat rencontre Alain Fleischer. Ce soir, entre les langues et les lieux.
Merci Alain Fleischer de nous accueillir dans votre bureau du Frénois, Studio National des Arts Contemporains. Cette école d'art que vous avez ouverte il y a tout juste 20 ans, que vous avez commencé à penser il y a plutôt 30 ans. C'est un modèle d'institution originale où l'image est au cœur des enseignements. C'est la dernière école, en quelque sorte, qui accueille des étudiants en art juste avant leur entrée dans leur vie d'artiste. Votre rôle au Frénois, vous l'assumez en tant que l'artiste que vous êtes depuis presque 50 ans. On vous connaît photographe, vous avez exposé dans les plus grands musées et les plus grandes biennales du monde. Vous êtes un cinéaste qui avait tourné plus de 350 films, documentaires et de fiction. Depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, vous êtes aussi écrivain. Un écrivain qui avait écrit plus de 50 livres, romans, essais, souvenirs, autobiographiques ou pas. Cet aspect de votre œuvre, même s'il est un peu plus discret et un peu plus récent que vos autres activités, n'en est pas moins fondamental. Nous y reviendrons au cours de ces conversations. Alors, aujourd'hui, Alain Fleischer, avant d'en venir à vos années de jeunesse, je voudrais évoquer votre caractère extraordinairement prolifique. On sent chez vous l'envie de faire des projets pour les quelques millénaires à venir. On a l'impression que chaque seconde de votre emploi du temps est remplie. Au fond, cette manière forcenée d'agir que vous avez est-elle peut-être une manière de pallier une forme d'angoisse ? Ou alors, faut-il la voir plutôt comme un besoin qui se rapprocherait de celui du collectionneur qui a toujours besoin d'un objet de plus ?
C'est exact, je suis collectionneur. J'ai toujours besoin d'un objet de plus, même si l'objet principal, je l'ai déjà et qu'il est irremplaçable. Alors, pour répondre mieux à votre question, je dirais que d'une part, j'ai une perception de mon temps de vie absolument aberrante. Je pense que je raisonne comme si j'allais vivre 300 ou 400 ans, ce qui, je pense, est une erreur. Et puis d'autre part, j'ai un autre défaut, c'est que je ne suis capable de renoncer à rien. Je ne veux renoncer à rien, et ça remonte peut-être à l'époque de l'école, où, vis-à-vis de mon père, il fallait que je sois bon dans toutes les disciplines. Il n'acceptait pas que je sois simplement bon en français ou en histoire géo. Il fallait être bon en maths, en physique, en chimie, voilà. Donc j'avais acquis cette discipline d'essayer de m'intéresser à tout et d'être bon dans tout. Alors bon, j'ai réussi plus ou moins, mais en tout cas, j'ai gardé ce goût de ne renoncer à rien, de ne rien négliger. Et voilà, je m'ennuierais à mourir si je n'étais que photographe, ou si je n'étais qu'écrivain ou que cinéaste. Et j'aurais un immense regret, si j'avais consacré ma vie à une seule discipline, de n'avoir rien fait dans les autres.
Le rythme de votre vie quotidienne est extrêmement intense. Je crois que vous dormez peu, vous voyagez beaucoup, vous ne prenez pas de vacances, sauf pour délocaliser votre lieu de travail. Et d'ailleurs, dans votre roman Immersion, vous vous moquez merveilleusement de ceux qui rentrent de vacances. Ces gens chez qui vous soupçonnez, plutôt que la satisfaction du bon temps passé, une forme d'incapacité au bonheur tous les jours de l'année. Comment tenez-vous ce rythme, Alain Fleischer ? Est-ce que vous êtes un ascète ou est-ce qu'au contraire vous êtes un épicurien ?
Je serais plutôt un épicurien, même si l'ascétisme est un fantasme pour moi. Je dirais que, en effet, je dors peu. Ça, c'est une vieille discipline que j'ai acquise à l'époque de mes études. Je dormais peu parce que je voulais, justement, en plus de mes études, m'amuser beaucoup, aller au cinéma, courir les filles, etc. Donc, je dors très peu, 4 heures environ par nuit. Si je me dis, bon, ça serait bien que je me repose, cette nuit, je vais dormir plus, je n'y arrive pas, je me réveille de toute façon. Et puis je dois dire que le fait de pratiquer plusieurs disciplines fait que l'une d'elles devient la récréation de l'autre. Si j'ai passé du temps à faire un film avec toute l'économie lourde du cinéma, le côté collectif avec des collaborateurs, des techniciens, des interprètes, des producteurs, tout d'un coup d'écrire un livre me fait changer d'économie et c'est des vacances. Je prends des vacances du cinéma en écrivant un livre. Je prends des vacances de littérature en faisant des photos. C'est une autre économie, également solitaire, mais qui me fait passer des mots aux images. Et donc ce passage constant d'une discipline à une autre me permet de me distraire et de prendre de fausses vacances. Quand je prends des vacances d'une activité de travail, c'est dans une autre. Voilà, c'est ça le petit secret. Je n'arriverai pas à travailler d'affilée, par exemple, à un livre ou à un film sans changer, sans passer à autre chose.
Ce qui est important dans votre manière de faire, je crois, c'est que vous passez toujours d'une discipline à l'autre, mais que, au fond, avec toutes ces disciplines, vous n'avez jamais d'activité transdisciplinaire. Vous ne mélangez jamais le cinéma et la littérature, ou bien la photographie et l'écriture.
C'est vrai, je suis d'accord pour qu'on me considère comme un pluri ou un multidisciplinaire, mais pas comme un transdisciplinaire. Je ne suis pas trans du tout, à tel point que je n'ai jamais imaginé adapter un de mes livres au cinéma, et je détesterais qu'on me considère comme un artiste qui fait de la photo, ou comme un photographe qui écrit des livres, ou comme un écrivain qui fait des films. Dans chaque discipline, je suis en dialogue intense avec son champ théorique, esthétique, et je pense que je pourrais être un écrivain très critique du photographe que je suis, ou un cinéaste qui n'aimerait pas du tout les livres que j'écris. Donc, je suis plusieurs personnes, en quelque sorte, en fonction de la discipline à laquelle je travaille.
D'autres termes, vous êtes quelqu'un d'autre quand vous travaillez?
Je pense que je suis quelqu'un d'autre. En tout cas, je suis quelqu'un de différent si je suis en train de faire un film ou si je suis en train d'écrire un livre. Ce n'est pas la même personne, ce ne sont pas les mêmes objets d'intérêt, ce ne sont pas les mêmes fantasmes. Et j'entends souvent avec étonnement des amis qui me disent « Mais en fait, il y a quand même un lien entre tout ce que tu fais, il y a des passerelles. » Moi, je ne les vois pas. Je ne les vois pas parce que je ne sens pas ce qui peut me faire passer d'une discipline à une autre. Je suis enfermé dans un champ que j'interroge intensivement, et ce que je dis en littérature, je serais incapable de le dire au cinéma, de la même façon que je ne pourrais jamais transformer une série de photographies en film. Ce sont des langages spécifiques, très différents, que j'interroge d'une façon intense. Et si je pousse parfois assez loin la recherche vers les frontières d'une discipline avec une autre, je ne les franchis jamais. J'aime beaucoup pousser la photographie, par exemple, en direction de ce qui bouge. Je n'ai jamais considéré que la photographie, c'était forcément une image fixe et instantanée. J'ai beaucoup aimé travailler sur la photographie comme un support de temps et comme un dépôt de mouvement, ou un support de mouvement, un dépôt de temps, comme on voudra. Je suis des êtres différents selon le langage que je parle.
Est-ce que vous travaillez parfois simultanément à différentes activités, ou bien vous cloisonnez aussi ces activités dans le temps?
Alors, je peux dire simultanément dans la mesure où le découpage se fait par petites tranches. Dans une même journée, je peux en effet passer, par exemple, toute la matinée, tout l'après-midi à écrire un livre, et le soir, faire des photos. Ça, j'aime beaucoup, puisque j'introduis la récréation dans le rythme de la journée. Par contre, il y a quand même des choses qui dominent. Par exemple, si je décide qu'il faut absolument que j'écrive un livre, je passe, par exemple, tout le mois d'août à l'écrire. Et ça me prend du matin au soir. Mais quand même, je pratique assez souvent la simultanéité entre des projets divers et qui racontent des choses absolument différentes, évidemment.
Au fond, vous avez en permanence besoin de faire l'école buissonnière.
En quelque sorte, oui. Oui. À faire l'école buissonnière et à fausser compagnie à moi-même et aux autres, puisque en passant d'un milieu à un autre, je fausse compagnie à chaque fois à quelqu'un. Quand j'ai beaucoup fréquenté le milieu du cinéma, que j'ai appris à le connaître et que je suis devenu assez critique, j'ai adoré découvrir le milieu de l'art, par exemple. Je trouvais que c'était un milieu plus raffiné, plus cultivé, etc. Et puis il y a un moment où ce milieu m'a aussi fatigué ou agacé. Et là, j'ai adoré découvrir le milieu de la littérature. Donc je me fausse compagnie d'abord à moi-même et ensuite au milieu que je fréquente.
Finalement, c'est peut-être aussi dans cet antre, dans ces moments de joie et de creux, que se situe l'essence même de votre pratique artistique. Est-ce que ces moments de creux, ces entre-deux sont des états qui vous intéressent?
Ben, il y a forcément des moments où il faut que je ne fasse rien, parce que sinon je n'aurais pas le temps de penser à des projets. Donc il y a ces moments que vous appelez des moments creux, qui ne sont pas vraiment creux, mais qui sont des moments d'apparente non-activité ou inactivité, qui sont des moments où je projette. En fait, dans tout ce que je fais, je suis un artiste ou un créateur du projet. Je ne suis par exemple pas du tout un artiste du matériau. Je ne suis pas comme un sculpteur qui interroge le marbre ou le bronze. Je suis toujours dans le projet, je projette des choses. Quand je pense à une série de photographies, je projette ce que je connais du support, de ses particularités, de sa technique, de son esthétique. Et une fois qu'une série est imaginée, pour moi, elle est faite, en quelque sorte. Tout s'est fait dans le projet. Pour les livres, c'est un peu différent, parce que les livres, j'arrive au moment d'écrire pratiquement avec rien dans les mains, rien dans les poches. Voilà. Donc c'est un peu différent selon les disciplines, mais il y a forcément ces temps creux qui sont des temps de projection.
Venons-en maintenant à vos premières années, Alain Fleischer. Vous êtes né à Paris en 1944 d'un père hongrois et d'une mère espagnole dans une famille juive qui a été presque entièrement déportée. L'accent de la langue est chez vous un sujet qui revient souvent, mais au fond dans tous les sens du terme. Quand vous étiez enfant, vous étiez le seul à ne pas avoir d'accent en français dans votre famille, avec votre sœur, je crois. Chez vous, quelle langue parliez-vous ?
Alors en effet, mon père hongrois, je l'entendais parler hongrois avec des amis, mais il n'avait jamais voulu nous enseigner sa langue, ni nous faire participer à sa langue. Par contre, ma mère, franco-espagnole, en fait moitié française, parlait en permanence avec sa mère, ma grand-mère, en espagnol. Donc je dirais que dans ma petite enfance, la langue que j'ai le plus entendue, c'était l'espagnol. En tout cas, j'étais dans une famille où j'entendais se parler beaucoup de langues, le hongrois, l'espagnol, le français, le tchèque, l'anglais, et toujours avec un accent. C'est-à-dire que chaque langue projetait un accent sur une autre. Et en effet, avec ma sœur, nous étions les seuls à parler le français avec l'accent de Paris, qui est réputé être le non-accent, mais c'est quand même un accent. Si vous interrogez un Québécois, il vous dira que l'accent de Paris est un accent à couper au couteau. Donc voilà, j'ai vécu dans ce milieu, et je pense que le partage entre les langues a beaucoup contribué à l'éclatement aussi de mon identité. J'ai adoré donc parler différentes langues, passer d'une langue à l'autre. Chaque langue était une cachette par rapport à une autre, par exemple. Dans un milieu français, si je parlais en espagnol avec ma mère, je savais que on n'était pas compris par tout le monde et que c'était une sorte de façon d'être caché, complice et voilà. Ça m'a donné beaucoup de sympathie automatiquement pour toute personne parlant le français avec un accent. Et j'en suis arrivé à trouver le français beaucoup plus beau s'il est parlé avec l'accent russe ou japonais ou anglais qu'avec l'accent de Paris ou de Marseille. Se souvenir d'une autre langue dans la langue qu'on parle. Parce qu'un accent, c'est ça. C'est avoir gardé la mémoire d'une autre langue dans une langue d'adoption. Et ça crée une sorte de profondeur de champ de la langue. C'est pour ça que les gens qui ont fait l'effort de parler le français d'une façon suffisamment distincte pour tenir une conversation, mais qui ont gardé l'accent de leur langue, viennent avec cette profondeur de champ de leurs origines. Je trouve ça très beau à la fois d'avoir appris une langue suffisamment bien pour la parler, sans avoir renoncé à son accent. Et je dois dire que l'accent hongrois de mon père est un accent qu'on ne peut jamais effacer. Le hongrois est une langue très difficile à apprendre et qui laisse un accent indélébile. Mon père parlait un très beau français au niveau du vocabulaire et de la syntaxe, mais son accent était décelable immédiatement. D'ailleurs, je dis dans un petit livre que j'ai consacré à l'accent que dès que j'entendais mon père au téléphone dire « Allô », tel que je viens de le prononcer, je savais que c'était le « Allô » en hongrois, qui d'ailleurs en hongrois veut dire « j'écoute ». Donc il n'est pas impossible que le « allô » que nous prononçons tous vienne du hongrois, qui signifie « j'écoute ».
Cette notion de l'accent dont vous parliez et à laquelle vous avez consacré ce livre, c'est aussi une image que l'on peut utiliser dans votre travail. Au fond, vous disiez que d'une discipline à une autre, de la photographie à la littérature ou bien de la photographie au cinéma, il n'y a pas de passage véritablement. Tout au plus, y a-t-il de temps en temps une forme d'accent, peut-être une petite trace que l'on retrouve d'une de vos créations à une autre.
C'est vrai, j'aime beaucoup cette idée d'ailleurs qu'une discipline laisse un accent dans une autre. Par exemple, dans mes livres, il est certain qu'il y a des passages qui sont visuellement descriptifs, comme ils pourraient l'être dans un scénario de cinéma. Est-ce que, par exemple, en écrivant, je cadre, comme on cadre en photographie ? Est-ce que je crée des profondeurs de champ, comme ça existe dans l'image photographique ou cinématographique. C'est possible, j'y crois assez. Et par exemple, en revenant au Fresnoy, je dis souvent que le cinéma qu'on pratique ici est un cinéma qui a l'accent d'autres disciplines, puisque c'est un lieu multidisciplinaire. Donc j'aime beaucoup cette idée, en effet, qu'une discipline puisse déposer un accent dans une autre.
Je voudrais en revenir à ce Paris de l'immédiate après-guerre dans lequel vous êtes né. Dans votre famille, à quoi s'intéressait-on ? Est-ce que vos parents vous emmenaient au musée ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de livres ? Quel était finalement le contexte dans lequel vous avez grandi ?
Alors, mon père était grand lecteur. J'ai toujours vu mon père passer ses dimanches dans la fumée de ses cigarettes. Il était malheureusement un grand fumeur, mais plongé dans des lectures. Quand on partait en vacances, il partait pratiquement avec une bibliothèque dans ses valises. Il lisait beaucoup. Il lisait de très bons livres. C'était un grand lecteur de littérature française. Il avait une adoration, par exemple, pour Genet et pour Céline, dont il avait les éditions originales, enfin, voilà. Et quant à ma mère, elle m'emmenait très tôt dans les musées. J'étais très tôt au Louvre, au Musée d'art moderne, au Palais de Tokyo à l'époque. Et je dois dire que, honteusement, que ce que je retenais des musées, c'est que j'y découvrais pour la première fois des femmes nues. Donc j'adorais aller dans les musées parce que j'y voyais des femmes nues que je ne voyais pas ailleurs. Et donc c'était ma première approche de l'art, c'est ça.
Je crois que votre mère ne travaillait pas. Quel était le métier de votre père ?
Mon père était industriel. À vrai dire, il avait une vocation d'écrivain. Mais quand il a dû venir en France pour faire ses études, puisqu'il y avait un numerus clausus sur les Juifs à l'université en Hongrie, il a dû renoncer à être écrivain parce que le passage d'une langue à une autre était trop difficile. Il aurait pu être un écrivain dans sa langue, hongroise, mais de devenir écrivain en français, ça lui semblait insurmontable. Donc il a fait des études scientifiques. Il est devenu ingénieur en textile, ce qui lui a valu d'ailleurs d'avoir un premier emploi à deux pas d'ici, de l'autre côté de la rue, dans une usine textile. Et puis ensuite, il est devenu un homme d'affaires dans un tout autre domaine, dans l'automobile. Il est devenu un industriel.
Est-ce que dans ces années 50, le souvenir de la guerre était une chose très présente dans votre famille ?
Très peu, en fait. Très peu, parce que d'une part, mon père ne nous a jamais parlé du destin de sa famille, du destin tragique de ses parents et de ses frères. Donc, non, je n'entendais que ma grand-mère qui me disait « C'est une honte que tu n'aies pas d'appétit. Si tu avais connu la guerre, tu saurais ce que c'est de ne pas avoir de quoi à manger. » Donc voilà, mais sinon, non, la guerre n'était pas très présente.
Et la religion, est-ce qu'elle était
pas
présente ?
Pas du tout. Alors ça, la religion, absolument pas. Je n'ai jamais entendu parler de religion dans ma famille. Je n'ai jamais mis les pieds dans une synagogue, par exemple. Très tardivement, quand j'avais 30 ans, en touriste à Djerba, en Tunisie. Et puis, je dois dire que, par exemple, ma sœur, qui a fait ses études secondaires dans une institution catholique, a été influencée par ses copines de classe, qui étaient des catholiques pratiquantes, et elle a voulu faire sa première communion. Ce qui a amusé notre entourage. Et moi, ça m'a désespéré. J'ai refusé d'aller à l'église le jour où elle a fait sa première communion. Mais voilà, donc, il y avait une tolérance absolue. Une tolérance absolue et une absence absolue de la religion dans ma famille. J'ignore totalement le calendrier religieux juif. Les années, les fêtes, tout ça, je ne les connais pas. Quand je suis avec des amis juifs, ils s'étonnent que je ne fête pas tel ou tel événement ou telle fête. Non, éducation religieuse, zéro.
En revanche, je crois que c'est par l'intermédiaire d'une de vos tantes que vous avez découvert l'histoire d'une partie de votre famille.
Ma tante, j'en ai eu une seule, c'était la sœur de mon père, donc la seule rescapée avec mon père de la famille. Tous les autres ont été déportés à Auschwitz. Et c'est quand j'allais voir ma tante qu'elle s'était installée à Londres, que peu à peu, elle commençait à me parler au fur et à mesure que je suis devenu plus grand. Et un jour, elle m'a vraiment parlé du destin de ma famille, notamment d'un oncle en qui elle me voyait... elle me voyait sa réincarnation parce qu'elle trouvait que je lui ressemblais beaucoup. C'était son frère favori. Donc elle m'adorait aussi pour cette raison-là, parce que je réincarnais un peu ce frère qu'elle avait beaucoup aimé. Donc c'est elle qui m'a appris des choses et elle s'étonnait que mon père ne m'en ait jamais parlé. Mais mon père était comme ça. Comme beaucoup d'ailleurs de personnes qui ont été dans ce genre de situation, ils n'en parlaient jamais. Je n'ai découvert le destin de ma famille que par ma tante, quand elle a voulu m'en parler, quand elle a jugé important que je sache.
Et dans cette histoire familiale, il y a une bague qui a joué un rôle.
Oui, alors c'est lié justement aux révélations que me faisait ma tante. Pour mes 20 ans, pour l'anniversaire de mes 20 ans, ma tante m'a fait deux cadeaux. Un cadeau pratique, comme elle disait, c'était une veste, une jolie veste en daim. Et un cadeau symbolique, c'était la bague de cet oncle qui s'appelait Chandor. Cette bague a une histoire invraisemblable, mais il y en a beaucoup comme ça dans ce genre de situation. C'est une bague que portait mon oncle dans le wagon à bestiaux où il était en direction d'Auschwitz. Un wagon à bestiaux, il est mort parce qu'il avait été frappé à coups de crosse par un SS. Il est mort dans ce wagon et avant de mourir, il a donné cette bague à un de ses compagnons d'infortune pour que si lui survivait, il la porte, la montre, et que si quelqu'un un jour l'interrogeait sur cette bague et lui demande d'où il la tenait, il puisse raconter son destin, ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit puisque ce survivant a atterri un jour en Israël, à Tel Aviv, où ma tante était allée prendre des nouvelles du destin de sa famille, puisqu'il y avait des archives, il y avait toute l'histoire voilà, des disparus. Elle n'a rien trouvé d'ailleurs, sauf que dans un café, elle entend parler hongrois à une table voisine. C'était deux messieurs, elle s'approche d'eux, elle leur parle en hongrois et elle découvre que l'un des deux portait cette bague. Elle lui demande d'où il tenait cette bague et à ce moment-là, le monsieur comprend que voilà que le message qu'il était chargé de porter allait aboutir.
Je voudrais revenir justement à la Hongrie de votre père qui est extrêmement présente dans votre littérature, mais jamais directement, toujours plutôt sous la forme d'allusions un peu fantasmatiques à cette Mittal-Europa qui, semble-t-il, vous fascine depuis toujours. Je me demandais, Hongrie, vous y avez été, à quel moment votre père vous a-t-il emmené? Vous y avez été souvent?
En fait, mon père gardait un très mauvais souvenir de la Hongrie. Il n'avait pas envie d'y retourner à l'époque où la Hongrie était sous le joug communiste. Donc il attendait que le régime change pour nous y emmener. Et puis il y a eu les événements de 56 en Hongrie où les chars russes ont écrasé une insurrection hongroise à Budapest. Et là il a compris que le régime communiste était installé pour longtemps et qu'il fallait renoncer à l'idée de n'y retourner qu'à un changement de régime. Donc nous sommes allés à Budapest avec ma sœur et mon père en 57. Et c'est là que j'ai découvert pour la première fois ce pays, que mon père nous a emmenés dans le quartier où avait été notre famille. Il a reconnu la rue, il a refusé de nous dire où était la maison. Je pense par émotion, on est passé dans cette rue, on est passé sûrement devant la maison où était notre famille, mais il a fait semblant, à mon avis, de ne pas la reconnaître. Par contre, bon, on a vu le lycée où il a fait ses études, on a vu le cimetière où il y avait sur une stèle gravé tous les noms de mes parents, disparu. J'ai vu beaucoup de fléchères avec beaucoup de prénoms hongrois. Voilà, c'était la première fois que je suis allé en Hongrie. Après, j'y suis retourné souvent. J'ai même fait un livre de photographie sur la Hongrie bien longtemps après. Et c'est vrai que ce monde de l'Europe centrale, qui est le monde d'avant-guerre, me fascine. Pas tant parce que c'est le monde de mes origines, mais parce que c'est un monde où s'est inventé, je crois, le XXe siècle et la modernité. Enfin, c'est quand même de là, de l'Autriche-Hongrie, que viennent Freud, Kafka, les musiciens de l'école de Vienne, Berg, Schoenberg, etc., Mahler, enfin, tous ces grands artistes que j'admire par-dessus tout. Donc c'est ce monde-là dont j'ai la mélancolie ou la nostalgie.
Si l'on examine vos différents lieux, il y a aussi l'Espagne de votre mère dont vous parliez il y a quelques minutes. Vous y avez été souvent. Est-ce que l'Espagne a aussi une place dans votre paysage mental ?
Elle est une place importante que je n'ai pas encore évoquée dans mon travail d'artiste ou d'écrivain, très peu, alors que ça a été vraiment le monde de mon enfance. Pendant longtemps, j'ai pu même me sentir un petit espagnol, parce que alors c'était encore un pays très peu fréquenté par les touristes. Les routes étaient en terre battue, les voitures soulevaient un nuage de poussière, mais on y allait très tôt et j'ai pu connaître une Espagne d'avant la vague de tourisme qu'on connaît depuis des années. C'est un pays magnifique, même s'il était sous un régime abominable, le régime du général Franco. Mais c'est un pays encore, comme ça arrive souvent dans des pays qui sont dans un régime autoritaire, ce régime autoritaire les gèle dans quelque chose et sauve quelque chose. Ça a été vrai pour les pays communistes. Hein. La Hongrie, la Tchécoslovaquie, à l'époque communiste, avaient été gelées dans un passé, plus que dans les régimes libres comme on en connaît en Europe occidentale. C'était le cas pour l'Espagne. L'Espagne était un pays archaïque, encore dans ses traditions. Et j'adorais aller en Espagne en vacances. C'était un autre monde. C'était un pays encore assez pauvre, très archaïque, dont je parlais parfaitement la langue, dont je me sentais chez moi. Et j'ai beaucoup aimé ce monde. Les amis et les fréquentations de ma mère, je les ai beaucoup connus. J'ai beaucoup échangé avec elle, avec eux. Et ça fait partie de mon... Oui, de mon éducation. Par exemple, j'ai lu le Don Quichotte en espagnol et beaucoup d'autres grands textes de la littérature espagnole qui ont beaucoup contribué à ma formation.
La Hongrie et l'Espagne sont les lieux de votre famille. L'Italie est un de vos lieux aussi que vous avez davantage choisi. Vous passez une grande partie de l'année à Rome, vous allez très souvent à Venise. Et vous parlez dans Immersion, dans votre roman Immersion, de Venise comme d'un lieu qui baigne dans la lagune, comme une photo dans un bain de laboratoire. Un lieu qui est entre, finalement, révélation et fixation, comme dans un état latent.
C'est vrai, j'ai mis longtemps à pouvoir faire quelque chose sur Venise. J'ai fait un documentaire sur Venise, mais c'était un documentaire sur Jean-Jacques Lebel, qui avait une exposition là-bas. Et bon, c'était une occasion pour m'obliger à filmer Venise, qui me semble une ville impossible à filmer, tellement elle est surchargée, regorgeant de clichés, en fait. Et puis c'était pareil pour la littérature. Écrire sur Venise, bon, je ne connaissais qu'un texte impressionnant sur Venise, c'est un texte de Jean-Paul Sartre, très peu connu, qui s'appelle « La reine Albemarle ». Finalement, quand je me suis décidé à écrire sur Venise, il a fallu que je puisse faire cette analogie que vous évoquiez. Venise me semble une ville plongée dans un bain d'arrêt, ce qu'on appelle un bain d'arrêt en photographie. C'est le bain entre la révélation de l'image et sa fixation. Autrement dit, Venise est révélée, c'est une ville qui existe maintenant depuis des siècles, elle est là, elle est visible, mais elle n'est pas fixée. On pense qu'elle peut disparaître d'un jour à l'autre. Et cette lagune dans laquelle elle baigne est comme ce qu'on appelle un bain d'arrêt en photographie. Le bain d'arrêt en photographie, c'est ce qui arrête la révélation et se situe entre la révélation et la fixation. Donc une espèce d'état intermédiaire, latent, qui a stoppé un processus sans protéger définitivement l'image, en quelque sorte, et pour ce qui est de Venise, la ville elle-même.
Il y a quelques jours, vous me racontiez que le Paris de votre enfance, vous l'aviez découvert à travers le cinéma, ou plus exactement à travers les salles de cinéma, en allant chercher un film dans le 19e, loin du quartier d'Auteuil où vous habitiez, peut-être dans le 5e arrondissement. Au fond, on a l'impression que peu importe la réalité de vos lieux, Alain Fleischer, que finalement, les endroits que vous traversez sont souvent des créations mentales.
Oui, c'est vrai. J'ai créé une géographie mentale de Paris, évidemment. J'étais un enfant du 16e arrondissement. Effectivement, je circulais entre Auteuil et la Porte de Saint-Cloud et le Bois de Boulogne. C'était mon territoire. Le reste de Paris me semblait des territoires lointains, encore que les dimanches, on allait voir des films aux Champs-Élysées. Mais le 19e arrondissement, ou Ménilmontant, ou Belleville, où j'habite maintenant, me semblait des pays étrangers. Et en effet, j'ai commencé à explorer Paris à bicyclette, puis en métro, à la recherche de films qui passaient dans des salles de cinéma lointaines. Quand il y avait une rétrospective Greta Garbo dans un cinéma à Pigalle, j'allais à Pigalle. Et j'ai aussi découvert comme ça les banlieues parisiennes, puisque toujours à la recherche des lieux du cinéma, j'ai exploré toutes ces banlieues où sont les laboratoires, les studios, et j'allais voir ces lieux où le cinéma se fabrique. Donc il s'est créé une géographie de Paris et des banlieues parisiennes liées au cinéma, soit aux salles de cinéma où j'allais voir des films, soit au lieu du cinéma où j'allais essayer de comprendre dans quelle chimie ça baigne. Les laboratoires de cinéma me fascinaient. Je voyais arriver des boîtes de films qui ressortaient dans des camionnettes et je me disais, c'est là que ça se passe.
Merci Alain Fleischer. Nous nous retrouvons demain pour évoquer justement ce pan entier de votre création, le cinéma.
À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Anaël Pijat avec Alain Fleischer. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Marc Garvenès, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.